Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. Vous vous en souvenez peut-être, il y a 3 semaines, nous avions évoqué dans cette émission les difficultés que rencontre l'Afrique de l'Ouest pour atteindre l'autosuffisance en riz. La région est une des principales importatrices de riz au monde et depuis longtemps, la question, la difficulté des importations se pose. Cette question, nous l'avions bien sûr soulevée il y a 3 semaines avec nos invités, mais à la fin de l'émission, au moment des remerciements, une fois les micros coupés, fermés, deux d'entre eux m'ont dit leur sentiment de ne pas avoir dit tout ce qu'ils avaient à dire. C'est la raison pour laquelle nous leur redonnons aujourd'hui la parole pour aller peut-être plus au fond des choses. Bonjour Jack Kahn.
Bonjour Jean-Pierre.
Jack Kahn, vous êtes un ancien trader de riz sur la place de Genève. Aujourd'hui, vous vivez à Accra, au Ghana, d'où vous nous parlez, et où vous avez créé la société Interval que vous dirigez. Vous êtes par ailleurs, j'ajoute, directeur des relations extérieures de la fondation John Crawford. Avec vous dans cette émission, Patricio Mendes del Villar, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Patricio Mendes del Villar, vous êtes économiste au CIRAD, le Centre de Recherche Agronomique pour le Développement, à Montpellier, d'où vous nous parlez. Vous animez également l'Observatoire du riz Osiris. Au cours de cette émission des reportages, évidemment, nous irons rejoindre Kaourou Magassa à Bamako au Mali, François Humfer-Kataji à Abidjan en Côte d'Ivoire et Loïcien Martial à Brazzaville en République du Congo, en Afrique centrale donc.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Jack Kahn, je vais vous donner la parole à vous d'abord. Est-ce que l'autosuffisance risicole est un objectif incontournable pour l'Afrique de l'Ouest?
Je pense que oui, effectivement, c'est un objectif incontournable à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. J'entends par cela, il est extrêmement important qu'au sein de la communauté de la CEDEAO, que l'on puisse nous assurer dans les meilleurs délais possibles d'une autosuffisance risicole. Et cela est possible.
Mais pourquoi est-ce que c'est si important?
C'est important en termes de sécurité alimentaire. On se souvient tous de la crise de 2008-2009, la crise du riz. C'était pas réellement une crise avec des sous-jacents économiques en termes de demande et offre, mais beaucoup plus parce que quelques pays ont décidé, en l'espace de quelques mois, de fermer leurs frontières et ainsi de bannir les exportations de riz. C'était le cas de l'Inde, c'était le cas du Vietnam, ça a été le cas de la Chine et, dans une certaine mesure, d'autres pays exportateurs de riz. On a vu en l'espace de 6 mois des prix tripler et surtout des exportations qui étaient interdites. Cela a placé les États dans des situations extrêmement dangereuses. Donc, cette sécurité alimentaire risicole est très importante. Il s'agit du produit alimentaire, du produit agricole, de la matière première la plus consommée.
Jack Kahn, je voudrais faire un petit point sur votre histoire personnelle. Donc, je disais tout à l'heure, vous avez été trader en riz. Donc, votre métier, c'était d'acheter du riz, en particulier en Asie, et de le vendre en Afrique. À l'époque où vous faisiez ce métier, est-ce que vous auriez tenu ce discours que vous nous tenez aujourd'hui, qui en fait veut en terminer avec ces traders, avec ces gens dont le métier est d'acheter et de vendre?
J'aimerais peut-être nuancer peut-être la remarque que vous venez de faire. Premièrement, il est clair que dans mon parcours professionnel chez Continental Grain, chez Glencore, puis chez Adax, lorsqu'on j'ai monté la division Soft Commodities, et probablement pendant les 5 premières années de négoce dans le sein de la société Novelle que j'avais créée, où ces premières années, je traitais 1 million de tonnes de riz annuellement avec des flux Asie-Afrique, je dirais pour 2/3 du volume. Donc, très clairement, je n'étais pas conscient de cela, je participais allègrement.
Vous n'étiez pas conscient des problèmes que vous dénoncez aujourd'hui?
Je n'étais pas à ce moment conscient. Là où j'ai pris la conscience de cela, c'est vraiment pendant cette crise, la première crise alimentaire, qui était beaucoup plus légère en 2006 et tout particulièrement pendant celle de 2008-2009, où on s'est retrouvé, je me suis retrouvé en tant que patron du groupe Novell, le premier trader mondial ex aequo avec Dreyfus, Olam, sollicité par une dizaine de gouvernements africains pour s'assurer de l'approvisionnement de riz suite à l'embargo.
Donc, l'embargo provoqué par les décisions des gouvernements indiens et autres.
Exactement. Et c'est à ce moment que j'ai pris pleine conscience de cela. Et je dirais qu'à partir de ce moment, ça a été vraiment un axe de développement, d'intérêt, pour moi tout particulier, en testant un certain nombre de choses en termes de production agricole. On a testé au Libéria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, des productions rizicoles. Donc c'est à ce moment également, dans ce cheminement, de prendre conscience de la difficulté du monde paysan, des programmes en place, et comprendre, déjà voir, qu'est-ce qui avait marché en termes de production rizicole. Et le constat était de dire que finalement, très très peu avait fonctionné.
Patricio Mendes del Villar, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution de Jack Kahn, de ce basculement qui est le sien d'une activité de trading pur et dur, d'importation-exportation, vers ce héros de l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique?
Oui. Bon, tout d'abord, je dirais que penser prévoir la sécurité alimentaire fondée sur l'autosuffisance, c'est tout à fait légitime. C'est presque, je dirais, ce qu'on appelle maintenant la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire le choix de chaque État, chaque gouvernement, chaque société, de choisir librement comment ils veulent se nourrir et par quels moyens, et notamment par l'autosuffisance. Maintenant, ce que j'ai entendu, c'est donner en exemple la crise de 2008. C'est vrai que la crise de 2008, il y a eu une flambée des prix. C'est vrai qu'il y a eu des exportateurs qui ont limité les exportations, et notamment l'Inde. Alors c'est vrai que l'Inde aujourd'hui est le premier exportateur mondial, donc c'est un acteur majeur du commerce marché mondial du riz. Mais à l'époque, en 2008, l'Inde était troisième ou quatrième exportateur mondial. Et c'est vrai que l'Inde a limité fortement ses exportations de riz non parfumé, hein, parce que le riz basmati a continué à être exporté normalement.
Mais c'est une petite part.
C'est quand même une part importante, mais qui ne concerne pas évidemment les pays africains, hein, puisque le riz basmati, il est essentiellement exporté vers les pays du Moyen-Orient et un peu vers les États-Unis et l'Europe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, parmi tous ces exportateurs, et notamment la Thaïlande, qui à l'époque était le premier exportateur mondial, n'a jamais arrêté ses exportations de riz, même s'ils avaient annoncé qu'ils allaient limiter. En fait, suivant les exportations thaïlandaises mois par mois, et entre janvier 2008 et juillet 2008, c'est-à-dire au moment où il y a eu cette crise et cette flambée des prix, en fait, la Thaïlande n'a jamais exporté autant de riz qu'à cette époque-là. C'est vrai qu'aussi le Vietnam avait aussi limité les exportations, mais en fait ils ont repris les exportations bout de quelques semaines. Donc je veux dire que ça a été un traumatisme, je veux dire cette crise de 2008. C'est vrai que ça a été aussi l'occasion d'une prise de conscience des pays qu'ils étaient exposés à des crises mondiales, et ce qui a généré toute cette idée de programme de développement de relance de la riziculture, et qui pendant quelques années, pendant deux, trois ans, ont eu un certain succès, c'est-à-dire qu'on a vu effectivement la production progresser. Mais à partir
Alors,
de
Patricio,
2010,
je vous arrête tout de suite parce qu'on va aller sur le terrain. Au Mali, précisément, où selon les chiffres gouvernementaux, 30% de la production céréalière, eh bien, c'est du riz. Fort de son potentiel en terre arable, et grâce à l'irrigation du fleuve Niger, le pays se projette comme puissance agro-industrielle. Mais les défis sont nombreux. À Bamako, c'est un reportage éco d'ici éco d'ailleurs, signé Kaourou Magassa.
Modibo Diarra, commerçant détaillant, vend des céréales au marché de Badalabougou depuis presque 20 ans. Rien n'a changé depuis l'époque où il a commencé. Des sacs de 50 ou 100 kilos sont ouverts par le dessus et laissent apercevoir les produits. Mil, sorgho, arachide, maïs et surtout son produit phare, le riz local, vendu à 400 francs CFA le kilo.
Qu'on se le dise, il n'y a plus de distinction entre riche et pauvre. Tout le monde veut manger la même chose, du riz malien de la variété Gambiaka.
Une observation confirmée par Oumar Tamboura, directeur national de l'agriculture au Mali.
Dans les temps, le riz était une culture de prestige, hein, parce que ce n'était pas donné à n'importe qui de consommer le riz. C'est généralement lors de grandes fêtes que le riz était préparé. Mais de plus en plus, le riz joue un rôle important dans la consommation, dans l'atteinte de la sécurité des populations du Mali.
Pour satisfaire la demande, de nouveaux acteurs plus professionnels ont étudié le marché et construit des usines de transformation pour nettoyer, trier et polir le riz. C'est le cas de Mohamedou Cissé, président de Agritech. Également propriétaire d'une centaine d'hectares dans la zone office du Niger, l'innovation lui a permis de baisser ses coûts.
Nous sommes parvenus à diminuer le coût d'exploitation du riz local par des nouvelles technologies comme des machines de pépinière, les machines à répiquer et souvent même des drones à l'épandage, des moissonneuses batteuses qui permettent de réduire le coût d'exploitation aujourd'hui à peu près à 50%.
En hausse de 25% sur 5 ans, le Mali table sur une production de 3 201 590 tonnes de riz pour 2020. Malgré ces avancées, selon une récente étude américaine, les importations de riz devraient tout de même augmenter de l'ordre de 16% cette année, tellement la demande pour cette denrée est forte et non comblée. Un chiffre non confirmé par le gouvernement malien. Oumar Tamboura est le directeur national de l'agriculture. Avec ses services, il a développé un nouveau plan sur 10 ans. Le système de riziculture intensive pour pallier cet état de fait.
Nous comptons diffuser le système de riziculture intensive qui va contribuer à augmenter le rendement de 5-6 tonnes pour aller jusqu'à 8-10 tonnes à l'hectare. Donc du coup, la production du riz va augmenter de façon significative avec moins de coûts.
Grâce à une meilleure irrigation et aux nouvelles technologies, le riz malien pourrait nettement suffire aux besoins des populations. 941 985 hectares sont dévolus à cette production. Pourtant, et depuis quelques années, l'insécurité est venue compliquer l'équation. Jouant au téléphone, un riziculteur de Nyono raconte.
On n'arrive pas à cultiver par l'insécurité, mais les redevances sont à payer avant le 31 mars, 67 500 par hectare. On n'a aucun moyen de défense. Si tu ne le fais pas, on prend ton champ. Si on prend ton champ, tu n'existes plus.
Assis devant sa boutique du marché de Badalabougou, Ousmane Koulibaly s'en inquiète.
Ce n'est pas une si bonne année pour le riz. Avec tous les problèmes et même les conflits, les prix vont certainement augmenter pour nous.
De possibles manques à gagner pour les commerçants détaillants, mais aussi et surtout une pression supplémentaire sur le budget des ménages maliens qui, en ville, consomment du riz sur au moins un repas par jour.
Un reportage signé Kaourou Magassa à Bamako. Patricio Mendelzel-Villard, je vous avais interrompu, je vais vous redonner la parole. Ce reportage, est-ce qu'il il illustre la course vers l'autosuffisance? Alors on va l'étudier, l'éplucher, rebondir sur ce reportage, sur ce que nous disent les interlocuteurs. Mais je voudrais que vous poursuiviez, vous terminiez votre raisonnement sur ce que disait Jack Kahn. Est-ce que l'autosuffisance risicole est un impératif absolu, selon vous, pour atteindre la sécurité alimentaire de l'Afrique de l'Ouest et au-delà?
Alors déjà, je crois qu'il faut relativiser. Hein. Qu'est-ce qu'on entend par autosuffisance? C'est-à-dire que 100%, on le voit bien, le Mali ne l'est pas. Mais moi, je dirais que ce n'est pas ça le problème. C'est-à-dire que le Mali est un pays qui, globalement, est autosuffisant, puisque, d'après ce qu'on a entendu, ils produisent peut-être 3 millions de tonnes, peut-être un peu moins, mais globalement, si on compare par rapport aux importations, les importations représentent moins de 10% du riz qui est consommé au Mali. Et d'autre part, on voit bien qu'il y a, ça a été dit, hein, c'est que il y a des problèmes politiques, des problèmes d'insécurité, et donc ça pose un problème non seulement à l'économie dans son ensemble, mais au secteur agricole en particulier. Et donc à ce moment-là, les importations viennent un peu et réguler un marché, c'est-à-dire ne pas compter uniquement sur la production locale, rurale, parce que, on le voit bien, l'agriculture et les pays sont confrontés à des contraintes, à des risques, à la fois, comme on l'a dit, de sécurité, mais il y a aussi, on n'a pas évoqué les problèmes climatiques, les problèmes de marché.
On va y venir, oui.
Voilà. Et donc, ce sont des agricultures qui sont, au fond, très exposées à des contraintes, directes, et pas seulement exposées à des contraintes de marché extérieures. Et moi, quand j'observe l'évolution des prix du riz, en particulier en Afrique de l'Ouest, en fait, la stabilité des prix vient surtout des riz importés. Alors que les riz locaux ont des fluctuations plus importantes. La baisse des prix au moment des récoltes et hausse des prix pendant la période des soudures. Donc, moi, ce que je constate, j'observe, après, je n'ai pas de jugement de dire est-ce que c'est bien ou c'est mal. Moi, ce que je constate, c'est que la stabilité des prix sur les marchés de consommation en Afrique de l'Ouest se fait en grande partie grâce aux riz importés qui fournissent régulièrement le marché.
Alors, Patricio Menezel-Biller, si on raisonne sur le Mali, est-ce que les 10% d'importation que vous donnez suffisent à réguler le marché?
Moi, je pense que 10%, ça permet de réguler le marché. Et puis,
je rends la parole à Jack Kahn.
Bien sûr, mais juste un exemple. La Thaïlande, qui est deuxième exportateur mondial, importe du riz. Et les États-Unis, qui sont quatrième, cinquième exportateur mondial, importent 1 million de tonnes de riz par an. Donc, je vais dire, c'est aussi une question de commerce, de marché, c'est-à-dire d'importer, mais en même temps d'exporter, ce n'est pas un problème. C'est ça qui régule le marché, c'est ça qui régule l'offre et la demande.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons du marché ouest-africain du riz avec deux interlocuteurs, Patricio Mendes del Villar, économiste au CIRAD que vous venez d'entendre, et Jack Kahn, PDG de la société Interval à Accra, au Ghana, qu'on va entendre maintenant. Jack Kahn, donc, qu'est-ce que vous pensez de ce discours de Patricio Mendes del Villar qui dit qu'il faut importer, quoi qu'il en soit, les importations servent à réguler le marché?
Écoutez, moi, je dirais que je partage dans une certaine mesure la position de Patricio. Maintenant, j'aimerais aussi dire la chose suivante, en prenant le cas spécifiquement du Mali. Effectivement, 90% du riz consommé au Mali est produit localement. Seuls 10% sont importés.
C'est un bon succès.
C'est un bon succès, tout simplement sur la base d'une seule mesure. Enfin, une mesure et peut-être une deuxième un peu imparfaite. La première mesure, c'est la régulation. Aujourd'hui, un commerçant ne peut importer, n'a des licences d'importation au Mali pour importer du riz que sur la base de quotas pré-agréés avec le gouvernement. Et ça dure depuis 15 ans. C'est la seule raison pour laquelle le Mali, aujourd'hui, à ce jour, est autosuffisant à 90%. Et loin devant tous les autres. C'est le champion en Afrique de l'Ouest. Et c'est la régulation, parce que c'est le seul qui a mis en place un mécanisme de régulation relativement lisible. Et le deuxième élément, c'est que le Mali est un des seuls pays du CADAP qui, depuis le début des années 2000, sous le leadership du président Touré, a imposé le respect du budget de plus de 10%, ce qui est la mesure préconisée par le CADAP, pour l'agriculture. Maintenant, je ne dis pas que cet argent a été bien utilisé au cours des 15 dernières années, notamment sur des financements d'engrais ou autres. Et il y a à redire à ce niveau. Mais je pense
qu'est-ce
pas
que vous voulez dire allez-y, Jack Kahn.
Sans vouloir faire du sensationnalisme, c'est extrêmement difficile de réguler, de mettre en place et d'appliquer des mécanismes de subvention en Afrique. Et je veux par là faire le parallèle.
Pourquoi il y a de l'argent qui s'évapore?
Je dirais pas ça, mais ce n'est pas forcément optimalement géré. Mais ça, je pense que tout le monde le sait, on est conscient. Mais encore une fois, c'est une tâche extrêmement difficile à gérer. Et ça s'applique à tous les autres mécanismes, enfin, de mécanisation, d'intrants. C'est une réalité de notre terrain. de notre continent. Mais peut-être pour juste revenir au fait que là où il y a un problème également, c'est dans l'allocation des licences d'importation qui sont données à des commerçants et non pas nécessairement à des acteurs de la production. C'est ça la limite. Il n'y a pas d'investissement massif des commerçants ou des acteurs de la filière distribution dans la production. Donc, on est en silo. Les différents acteurs de la chaîne de valeur ne se parlent pas. Et c'est ça la limite du modèle malien qu'il faut toutefois saluer.
Patricio Mendez-Villar, vous travaillez sur ces questions-là aussi, sur l'organisation des filières, sur qui importe, qui achète, qui paye?
Oui, un peu, mais je voudrais revenir sur la question des quotas, en fait. Au Mali, c'est peut-être plus facile à imposer des quotas à des commerçants, puisque le Mali importe de mémoire entre 100 000 ou 200 000 tonnes par an. C'est plus difficile de mettre en place un système de quotas qui soit efficace dans des pays comme le Sénégal, qui importe 1 million, 1 million 200 000, ou le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut aussi voir les proportions. Je veux dire, c'est plus facile au Mali d'imposer aux importateurs qui importent, 10 000 tonnes ou 15 000 tonnes, de leur imposer d'acheter sur le marché local 10 000 tonnes ou l'équivalent. Au Sénégal, on a aussi imposé des quotas à des importateurs, mais les importateurs, dans leur globalité, ont signé un accord avec le gouvernement pour l'achat de 50 000 tonnes. 50 000 tonnes d'un côté, d'acheter sur le marché local.
50 000 tonnes de riz sénégalais.
Sénégalais, et de l'autre, vous avez plus d'un million de tonnes. Donc, vous voyez que la difficulté aussi de mettre en place des systèmes dans un pays et de les transposer dans d'autres pays qui ont des contextes ou des situations qui sont complètement différentes.
Dans le dernier bulletin mensuel des marchés agropastoraux concernant le Sénégal que vous diffusez, Patricio Mendez-Villar, sous la signature Osiris ou Sirad, je ne sais plus, il est fait état ces dernières semaines d'un stock de 65 000 tonnes de riz importées chez les grossistes sénégalais et d'un peu plus de 1000 tonnes chez ces mêmes grossistes, 1000 tonnes seulement de riz local. C'est la manifestation de cette situation que vous décrivez ?
Bah oui, c'est la manifestation que les stocks, parce que cette question des stocks s'est posée au mois de mars, au moment de la pandémie du Covid, et que certains pays, et notamment le Vietnam, avaient dit qu'ils allaient limiter les exportations, et du coup, il y a eu le spectre de 2008 qui est apparu. Et du coup, on a commencé à regarder, en Afrique, quels sont les stocks? Et j'ai demandé, notamment au Sénégal, à mes contacts, quel était le niveau des stocks. Et tous m'ont répondu qu'il y avait des stocks d'au moins un mois, deux mois, mais c'était essentiellement de riz importé.
Jacques, la situation sénégalaise, c'est un contre-exemple de ce qui se fait au Mali ?
Oui, c'est, je dirais, pas un contre-exemple. Encore une fois, chaque pays a ses mécanismes de régulation propres. La décision du Conseil présidentiel de 2014, je crois, qui était de fixer...
Vous parlez du Sénégal, là.
Je parle du Sénégal. De fixer des quotas pour les importations de riz n'a pas été suivie de la deuxième phase qui était attendue, qui est en cours de finalisation actuellement, qui était de lier maintenant à la production ces quotas de riz. Donc encore une fois, je dirais que chaque pays a ses réalités, à chaque pays de définir sa stratégie de régulation et ensuite de l'avoir de manière coordonnée avec la CEDEAO en tenant compte notamment des tarifs extérieurs communs qui doivent être mis en place.
Alors on va partir en Côte d'Ivoire où, pour bien marquer l'importance du sujet, un ministère de la promotion de la riziculture a été créé l'an dernier. La production locale ne couvre que 60% de la consommation nationale. Les investissements globaux, en privé ou public, dans le secteur devraient atteindre 1 000 milliards de francs CFA, annonce-t-on, soit 1 500 millions d'euros pour la campagne 2021. Là aussi, l'objectif, c'est d'atteindre l'autosuffisance d'ici 2025 et devenir un pays exportateur en 2030, un objectif très ambitieux. Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé François Imufer Kataji à Abidjan.
Vous, votre riz préféré, c'est lequel ?
C'est le riz local.
D'où ça ?
Bongwanou.
Ce responsable de Superette préfère le riz local, tout comme ses clients, affirme-t-il. Mais tous les ans, le riz produit en Côte d'Ivoire vient à manquer dans les rayons. Officiellement, la production est d'environ 1 300 000 tonnes. Il n'est pas produit en quantité suffisante pour répondre à la consommation des Ivoiriens qui font bouillir 83 kg de riz par an, en moyenne et par personne.
Bon, riz local, les récoltes, le niveau de récolte, quand ça sort, le prix est bas. Voilà, quand le récolte commence à finir, le prix augmente.
Un prix fluctuant, une offre incertaine, c'est la raison pour laquelle le revendeur s'est déplacé dans le grand entrepôt Silla et Frères d'Abobo, l'un des plus grands grossistes d'Abidjan. Ici, on ne trouve que du riz importé, plus d'une vingtaine de variétés. Toute la journée, les employés transportent sur leur tête plusieurs sacs de 25 ou 50 kilos de riz d'origine indienne, pakistanaise ou encore vietnamienne, imparable concurrent du petit grain ivoirien. Le responsable du magasin ne serait pas contre l'idée de remplacer ces produits asiatiques par des produits ivoiriens.
Oui, ça peut marcher, mais je pense pas que ça en ait un coup, hein. C'est avec le, au fil du temps que peut-être ça peut prendre. Parce que jusqu'à présent, nous, on ne vend pas le riz local. C'est du riz importé que nous vendons.
Car la Côte d'Ivoire importe environ 1,5 million de tonnes de riz chaque année, ce qui pèse 350 milliards de francs CFA par an dans la balance commerciale. Alors atteindre l'autosuffisance en 2025 et même devenir un pays exportateur, c'est l'objectif affiché du ministre de la promotion de la riziculture, Gaoussou Touré. Il concède qu'il s'agit d'un challenge, mais assure qu'un plan rationnel qui passe par une libéralisation du secteur est déjà sur les rails.
L'État de Côte d'Ivoire, comme plusieurs pays, a décidé de ne plus prendre en main le secteur productif. Mais l'État a continué à investir lourdement dans la riziculture en raison du fait qu'il fallait assurer la sécurité alimentaire de notre pays. Et il y a de grandes actions qui ont été entreprises, des montants importants ont été dégagés pour très peu de résultats. Et c'est ce qu'il faut changer aujourd'hui pour d'abord partir d'une riziculture rentable, parce que dans l'économie, au niveau du secteur privé, n'est durable que les entreprises qui dégagent des bénéfices.
Face à l'arrivée du secteur privé dans le riz ivoirien, certains redoutent les conséquences environnementales ou sociales de cette transformation dans une filière déjà en crise. Le ministre cherche à rassurer les 800 000 riziculteurs du pays.
L'ensemble des producteurs de riz travaillent sur des superficies en dessous même de 0,5 hectares. Quelle que soit la productivité, sur ces superficies-là, ils resteront toujours dans la pauvreté. Si vous parcourez toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui, tous les riziculteurs que vous rencontrez vous disent « nous sommes les plus pauvres, nous n'avons rien, il faut que l'État nous vienne en aide ». Il faut changer de mentalité. C'est pour cela que dans notre programme, nous prévoyons d'attribuer 5 hectares à chaque producteur. Et on va les regrouper dans des coopératives en raison de 50 personnes par coopérative.
Plusieurs protocoles d'accord ont déjà été signés avec les industries des semences ou des pesticides, mais aussi des nouvelles technologies afin d'informatiser l'ensemble de la chaîne et rationaliser la production.
Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé François Imufer Kataji à Abidjan. Nous parlons du marché du riz en Afrique de l'Ouest principalement, avec deux invités, Patricio Mendes del Villar, économiste au CIRAD à Montpellier, et Jack Kahn, patron de la société Interval à Accra, au Ghana. Ils sont tous les deux en ligne. Et Patricio Mendes del Villar, est-ce que ce projet ivoirien animé par donc le ministre de la promotion de la riziculture, c'est quand même un symbole lourd, important, de l'ambition de ce pays. Est-ce que ce programme de regrouper les petits riziculteurs dans des coopératives en leur attribuant des lopins de terre plus importants que ce qu'ils ont actuellement, est-ce que c'est la bonne solution?
Disons que la filière riz en Côte d'Ivoire, je la connais un peu mieux, et c'est vrai que en général les producteurs ont des petites parcelles qui ne dépassent pas un quart d'hectare, et bien sûr regrouper, leur donner plus de surface, ça peut être intéressant pour produire, faire des économies d'échelle, comme on dit. Mais le problème, c'est que ces producteurs, il leur faut des moyens. Il leur faut des engrais, il leur faut des semences. Et ce qui pêche beaucoup dans les riziculteurs africaines, c'est le manque d'accès au crédit pour les producteurs. Donc c'est le problème principal. Et moi, quand j'enquêtais des producteurs, je leur disais, mais vous produisez un quart d'hectare, est-ce que vous pourriez pas produire un hectare? Et ils me disaient, mais en fait, c'est ce que moi je peux produire et ce que je peux cultiver en étant tout seul ou avec une main d'œuvre limitée. Et en plus, je n'ai pas d'autres moyens pour pouvoir produire davantage. Donc, dire d'une part, on donne plus de surface aux producteurs pour pouvoir produire davantage, c'est une bonne chose, je comprends, mais de l'autre, il faut aussi donner les moyens pour accéder à des crédits. Et j'ajoute que les investissements privés, en fait, ne concernent pas du tout la production, c'est-à-dire que ce ne sont pas des privés qui se mettent à produire, mais ils passent des contrats, en tout cas veulent passer des contrats avec des petits producteurs. Et ça aussi, ça pose des problèmes. Parce que pour pouvoir faire tourner des usines à une capacité de 25 000 tonnes par an, il faut pouvoir contractualiser avec des milliers de producteurs pour obtenir ces quantités. Donc, ça pose aussi le problème d'échelle, c'est-à-dire qu'on met en place des infrastructures, des installations qui sont censées produire non seulement une quantité de riz importante, mais un riz de qualité, mais de l'autre, ont beaucoup de difficultés à pouvoir s'approvisionner du fait de la structure de production de petits producteurs qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas accès aux intrants, qui n'ont pas accès au crédit, et dans certains cas, ils n'ont pas accès non plus au foncier, puisque beaucoup de producteurs de riz en Côte d'Ivoire ne sont pas propriétaires de leurs terres. En fait, ils louent les terres, ces terres appartenant à des propriétaires fonciers qui, eux, sont plutôt dans les cultures pérennes, EVA, cacao ou café.
Jack Kahn, est-ce que vous retenez les remarques, les critiques de Patricio Mendes de Lula, ou est-ce que vous êtes plus attaché à cette ambition ivoirienne et à ce qu'elle porte de succès potentiel?
Disons que je suis extrêmement attaché à cette stratégie ivoirienne. La superficie des 5 hectares, des 2 hectares, j'aurais la même approche que Patricio, ça c'est la décision du pays. Mais là où j'aimerais insister, c'est que pour moi il y a deux éléments qui sont encore une fois extrêmement importants pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui importe 1 500 000 tonnes de riz encore aujourd'hui, que ces 1 500 000 tonnes sont importées à près de 70% par un importateur unique.
Qui est ?
Le groupe Ezedine, je crois. Donc, je dirais quand même, c'est une situation qui est extrêmement, explosive pour la Côte d'Ivoire, bien qu'il y ait vraiment cette très forte volonté du gouvernement ivoirien, ce qui a été démontré par la création d'un ministère en charge de la riziculture. Mais il y a aujourd'hui deux sujets extrêmement importants. Le premier, c'est de développer des infrastructures d'irrigation. Je pense que vraiment le modèle qui se dessine de plus en plus, c'est que de pouvoir réaliser ces aménagements au bénéfice de petits producteurs pour des superficies qui pourraient aller jusqu'à 5 hectares, comme l'a dit le ministre Gaoussou Touré. Et de l'autre côté, on revient à cette régulation. Une fois qu'on a fixé un prix de vente acceptable, sur cette base-là, tout le reste de la chaîne de valeur s'organise très facilement, avec une implication minime de
Mais,
l'État.
Mais Jack Kahn, quand vous décrivez le rapport de force au sein de cette filière de production de riz, et vous nous dites qu'il y a un importateur quasiment unique, le groupe Ezedine, qui importe 1 million de tonnes de riz par an, cet importateur a des intérêts économiques puissants, des relais au sein du pouvoir. Est-ce que c'est un lobby à lui seul qui est capable de freiner ce mouvement?
Non. Moi, je pense qu'en aucun cas, vous savez, j'ai été trader pendant 20 ans, en aucun cas un trader, un distributeur a le pouvoir de bloquer quoi que ce soit. Il va simplement continuer à opérer jusqu'à ce qu'un mécanisme clair, lisible, de tous, se mette en place. Entre-temps, la nature a horreur du vide. La Côte d'Ivoire a besoin d'importer 1,5 million de tonnes. Ben, il y aura 1,5 million de tonnes importées. Et à ce titre, ben, ceux qui sont les mieux organisés opérons. Donc, encore une fois, c'est pas un commentaire par rapport à la méthode de travail des édiles. Non, à ce stade, je n'ai pas les éléments pour pouvoir commenter là-dessus. Mais c'est beaucoup plus de dire que c'est une situation extrêmement dangereuse.
Pourquoi ?
Bah, parce que il s'agit de la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui rend peut-être un peu plus difficile s'il s'agissait d'une importation répartie entre un nombre d'acteurs qui pourraient adhérer à un modèle qui dirait très clairement, messieurs, à partir du moment où vous voulez importer, il faut aussi produire ou en tout cas acheter ce qui est produit. On revient à ce mécanisme de régulation qu'on avait évoqué auparavant sur le Mali et le Sénégal.
Comment les pays africains peuvent-ils rivaliser sur la masse produite et sur les prix affichés avec une région asiatique où il y a 2-3 récoltes par an, alors que en Afrique, corrigez-moi si je me trompe, on en a encore à une récolte.
En aucun cas, le continent aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest, est capable de rivaliser avec la production asiatique, sauf dans le cas où les prix flambent en Asie. Pourquoi je dis ça? C'est que aujourd'hui, le riz asiatique, l'essentiel du riz asiatique qui arrive en Afrique, est subventionné au moment de la production, est subventionné parfois au niveau de la transformation et dans la plupart des cas subventionné au moment de l'exportation. En aucun cas, nos agriculteurs ne bénéficient de ces mécanismes et nos États n'ont pas les moyens de cela. Donc, tant qu'on ne mettra pas en place un mécanisme de régulation, ça ne se passera pas. Maintenant, permettez-moi un cri du cœur d'Africain pour rebondir sur la discussion qu'on m'a demandé tout à l'heure si je partageais parfaitement l'opinion de notre collègue.
De Patricio Mendez-Villa.
De Patricio. Ouais. C'est une nécessité de le faire aujourd'hui. On n'a pas d'autre choix. On doit aller de l'avant, réguler. Moi, j'ai une question. Le jour où la Côte d'Ivoire, dans sa diatribe de « on va être exportateur en 2030 », on souhaite déjà « soyons producteurs à l'horizon 2025 », et ça s'applique aux autres slogans des autres pays africains, et pas seulement la Côte d'Ivoire, mais le jour où on est exportateur, vous pensez vraiment qu'on va pouvoir charger nos bateaux de riz et les envoyer sur le Vietnam ou les États-Unis ou le Brésil ou l'Inde ou la Chine? Mais ça n'arrivera pas. Donc, il s'agit aujourd'hui de mettre en place, d'avoir le courage de mettre en place ces mécanismes-là. Et j'aime à ce titre citer un de mes mentors, le professeur Paul Focam, qui entre autres est le président du groupe Afriland, qui dit toujours, il s'agit de restaurer la dignité africaine. Vous savez, au Ghana, on interacte tous les jours, intervalle la Fondation Koufor, avec la JICA, avec COICA, et tous nous regardent un peu en disant, mais quand est-ce que vous allez mettre en place un mécanisme de régulation ?
Patricio Mendez-Villar, vous en pensez quoi de ces remarques de Jack Kahn, de cette ambition, l'ambition a abouti forcément à des résultats ?
Oui, moi j'avais dit au début d'émission, je veux dire que la sécurité alimentaire fondée sur l'autosuffisance est tout à fait légitime et j'entends bien ce que dit Jacques concernant une question de dignité. Donc c'est vrai que ce discours touche le cœur des Africains et je les partage, je le comprends. Mais après moi je suis chercheur, j'observe, je regarde dans quelles conditions ces politiques peuvent fonctionner et à quelle échéance. Moi, je pense que une échéance de 2025 n'est pas réaliste pour la Côte d'Ivoire d'être autosuffisant. Bon, déjà, sur les chiffres, on peut dire beaucoup de choses. Dans le reportage, j'ai entendu dire que les Ivoiriens consommaient 83 kilos. C'est plus que les Chinois. C'est-à-dire que les Chinois, dans les statistiques de la FAO, affichent de l'ordre de 70 tonnes par an et par habitant. Donc là, ça m'interroge.
70 tonnes ou 70 kilos?
Pardon, 70 kilos, ouais, pardon.
70 tonnes, ça fait beaucoup.
Non, 70 kilos, excusez-moi. Voilà, donc ça m'interroge déjà sur les chiffres de
Vous
production.
Vous voulez dire que c'est 80 quelques kilos de riz consommés, selon les chiffres officiels par les Ivoiriens, c'est inexact?
Qui sont aussi les chiffres de la FAO. Hein,
mais qui reprend les chiffres du gouvernement.
Voilà, et le Sénégal, ce qui m'a beaucoup, très rapidement, hein, ce qui m'a beaucoup étonné en regardant la dernière publication de la FAO, le Sénégal consommerait 120 kilos de riz par an et par habitant. Et ça, ça a été officiel, publié par la FAO.
Donc vous n'y croyez pas, Patricio
C'est difficile, hein. Je veux dire, ceux qui connaissent les habitudes alimentaires des Sénégalais, des Ivoiriens, on sait que on mange, une fois par jour du riz, mais si vous faites le compte, on n'arrive pas à 80 kilos d'un côté et à 120 kilos de l'autre.
Si on raisonne sur la base de ces chiffres dont vous nous dites qu'ils sont faux, tous les autres chiffres sont faux.
Les chiffres
d'importation, de production, etc.
Les chiffres d'importation, moi je dirais qu'ils sont beaucoup plus réalistes parce qu'ils sont contrôlés par les douanes, parce que ça rentre par le port de Dakar ou d'Abidjan. Donc ce sont des chiffres qui sont à peu près exacts. Donc moi personnellement, je fais plus confiance à ces chiffres-là, d'autant que je regarde aussi les chiffres des exportateurs, puisque les exportateurs publient aussi les exportations mensuelles par destination. Donc et j'observe que c'est cohérent.
Patricio Mendez-Villard, je vous interromps, oui. Parce que de toute façon, si je ne vous interromps pas, vous allez faire l'émission en vous tout seul. Absolument. Et parce que nous avons un troisième rendez-vous de reportage. On va un peu s'éloigner de l'Afrique de l'Ouest, s'intéresser à un pays d'Afrique centrale, le Congo-Brazzaville. Là aussi des chiffres, parce qu'il dépend pour l'essentiel des importations alimentaires pour se nourrir. Tout produit confondu. Alors, le Congo-Brazzaville, on le sait, c'est un pays forestier, c'est un pays où il pleut pas mal, mais c'est un pays où la production locale ne suffit pas, et les politiques nationales initiées pour une autosuffisance alimentaire n'ont pas été concluantes. Écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Loïcia Martial à Brazzaville.
Sur la Nationale 2, à mi-chemin entre Brazzaville et la localité d'Mvouba, on trouve deux nouveaux villages agricoles, spécialisés dans la production des œufs de table, des poulets de chair et l'élevage des porcs. Ces villages agricoles, qui intègrent un projet expérimental lancé en 2010, sont loin d'apporter les résultats attendus. Le gouvernement se propose de les refaire. Henri Ndjombo, ministre d'État en charge de l'agriculture.
À ce jour, ces villages ne connaissent que les problèmes et semblent comme arrêtés dans leur marche. Nous allons les relancer avec les fonds extérieurs.
La sous-production des nouveaux villages agricoles illustre la dépendance de la population congolaise. Ce qu'elle mange chaque jour ou presque dans son assiette provient essentiellement de l'étranger, selon Isidore Ondoki, coordonnateur national du projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale.
La plupart des produits que nous consommons viennent encore de l'étranger, comme par exemple l'oignon et surtout les produits dits carnés, c'est-à-dire les produits d'élevage. Nous avons une population qui aime de plus en plus manger de la viande. Elle aime aussi manger du poulet, mais le poulet et la viande sont totalement importés donc des pays étrangers.
Outre les produits carnés, le pays importe officiellement 50 000 tonnes de poissons par an. Son littoral est sous-exploité. La riziculture a besoin d'un véritable coup de pouce avec près de 70 000 tonnes de riz importées chaque année, au grand regret de Mermance Babunga de l'Observatoire congolais des droits de consommateurs.
Avec l'exode rural, c'est une culture qui est en train d'être délaissée. Parce que tous ceux qui ont commencé à faire cette culture sont en train de vieillir. Il n'y a plus d'actifs pour continuer à faire la riziculture dans notre pays.
Le ministre d'État, Henri Ndjombo, est convaincu que l'agriculture ne décolle pas à cause des problèmes engendrés par d'autres secteurs connexes.
90% au moins des problèmes de l'agriculture sont hors agricole et dépendent des autres secteurs. Nous avons besoin que nous disposions de ressources pour soutenir aussi tous ces secteurs pour qu'ils puissent nous soutenir.
Dans l'ensemble, le Congo importe annuellement des denrées alimentaires pour 500 à 600 milliards de francs CFA. Ces importations montrent bien que le marché local existe. Il nous faut l'approvisionner par notre propre travail. Lance Henri Ndjombo.
Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Loïcia Martial à Brazzaville. Jack Kahn, donc on est un peu hors de votre champ d'intervention ouest-africain. C'est un espèce de contre-exemple Congo-Brazzaville parce que là, bon, on consomme moins de riz que dans les pays dont on a parlé tout au long de l'émission, mais c'est un pays dont la sécurité alimentaire est assurée totalement, presque, par les importations.
Oui, c'est le problème effectivement de certains pays d'Afrique centrale, pour citer la Guinée équatoriale et également d'autres. C'est également pour les importations qui ont été chiffrées, je crois, à 70 000 tonnes. L'évolution a été régulière, d'ordre de 10% par an, et ça je le dis sous le contrôle de Patricio, au cours des 15 dernières années. D'autres sujets, outre le riz, comme la volaille, est un sujet récurrent dans beaucoup d'autres pays, y compris dans la zone Afrique de l'Ouest. Et encore une fois, on revient toujours à ce mécanisme, créons un marché intérieur. Une fois que vous créez le marché intérieur, à partir de là, les choses se mettent en place.
Patricio Mendes del Villar, le Congo-Brazzaville ne fait pas partie de vos champs d'investigation, mais est-ce que c'est un exemple, enfin, est-ce qu'on peut réfléchir à partir de ce qui s'y passe, au risque que court peut-être, ou est-ce que c'est une situation paroxystique par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans les autres pays de la région ouest-africaine?
Déjà, je pense qu'il faut relativiser dans le sens où c'est vrai qu'on parle de du riz importé et cette dépendance vis-à-vis de du riz importé. Mais si on prend les autres produits, je pense que il faut pas oublier le maïs, le sorgho, le mil, le plantain, l'igname, qui font partie de la diète alimentaire des Africains, et tous ces produits là sont produits sur place, c'est-à-dire que la sécurité alimentaire des Africains ne peut pas simplement être raisonnée, et ça évidemment je ne prêche pas pour ma chapelle, être raisonnée uniquement par rapport au riz. Le riz fait partie de la diète des Africains de manière importante, surtout dans les villes. Ça aussi, il faut distinguer la consommation dans les zones rurales des zones urbaines. Parce que quand vous interrogez les consommateurs, les ménages ruraux, et ce qu'ils mangent quand il n'y a pas de riz, ils vous disent on mange autre chose. Alors que dans les villes, le citadin, l'urbain, il mange régulièrement du riz tous les jours. Donc là aussi, il faut, dans les politiques, il faut observer un peu les réalités du terrain, les réalités des régions, et la réalité aussi de la diète alimentaire qui n'est pas simplement basée sur le riz, mais sur l'ensemble de produits qui font partie de la sécurité alimentaire.
Message envoyé aux auditeurs de RFI. Cette émission est maintenant terminée. Merci à Jérémy Besset d'avoir assuré la réalisation et la mise en onde de ce programme. Merci à vous deux, Jack Kahn et Patricio Mendes del Villar, d'avoir accepté de replonger dans la marmite de riz. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet rfi.fr ou nous podcaster via l'application Pure Radio sur votre smartphone. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.